Bonsoir. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur a signé la semaine dernière des arrêtés ministériels interdisant l'importation du ciment gris, des barres de fer, des bières et boissons gazeuses en provenance de tous les pays étrangers. Ces mesures concernent notamment les postes frontaliers situés dans la partie ouest du territoire national pour une durée de 6 mois. Selon ces arrêtés, ces mesures visent à encourager l'industrie locale qui contribue au budget de l'État par le paiement d'impôts, taxes et rédevances, ainsi qu'à la création des richesses. Quelle analyse faire de ces mesures, c'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Emmanuel Mukundi. Bonsoir professeur.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre d'État en charge du commerce extérieur. Jérôme Sekana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Papi Maotela, bonsoir. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Papi Maotela, lui, est analyste économique. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plusieurs marchandises sont prohibées ou soumises à des mesures de restriction à l'importation ou à l'exportation. D'autres sont tout simplement suspendues d'entrée en RDC pour une durée de 6 mois. Il s'agit entre autres des barres de fer, du ciment gris, des bières et boissons gazeuses. Cette décision est contenue dans 4 arrêtés signés le 25 août dernier par le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Paul Matendo nous en donne plus de détails.
Le premier arrêté interdit certaines marchandises à l'importation ou à l'exportation. Il s'agit par exemple de produits en violation du droit des propriétés industrielles, intellectuelles ou du droit d'auteur, des faux billets et pièces de monnaie, des contrefaçons, des véhicules d'occasion dont l'âge dépasse 20 ans, des produits souillés ou impropres à la consommation, des produits alimentaires contenant la saccharine, des animaux et produits d'origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques. 3 autres arrêtés portent sur la suspension au poste frontalier dans la partie ouest du territoire national de certains produits pour une durée de 6 mois. Il s'agit du ciment gris, des bières et boissons gazeuses ainsi que des barres de fer. Un autre arrêté signé par Jean-Lucien Boussa est celui qui porte sur la création du centre de recherche et d'analyse des statistiques commerciales. Selon lui, ce centre a pour mission d'analyser et d'interpréter toutes les données statistiques relatives aux importations et aux exportation.
Voilà, merci Paul Matendo. Professeur Emmanuel Mukundi, vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre d'État en charge du commerce extérieur. Vous êtes également professeur à l'université de Kinshasa et spécialiste en économie monétaire internationale. Professeur, quelle est l'opportunité en ce moment de prendre de telles mesures?
Merci beaucoup. Comme on vient de le dire, c'était très opportun et très utile que son Excellence Jean-Lucien Boussa puisse prendre de telles mesures. Premièrement, nous savons que l'État a besoin, n'est-ce pas, de créer les emplois. Or, on ne peut pas créer les emplois sans le soutien de l'industrie locale, sans les investissements dans notre pays. Et donc, pendant ces temps, il y a eu des investissements dans des secteurs bien précis, notamment le secteur de ciment. Et ce secteur-là a fait que, aujourd'hui, dans le Bas-Congo, par exemple, dans le Congo central, nous avons des investissements dans le secteur du ciment et que cela a permis que le pays commence à réaliser la production de ciment qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de la consommation locale. Mais fort malheureusement, il y a certains de nos compatriotes, voire des étrangers, surtout des étrangers, qui se permettent de passer avec le même produit et ce, de manière frauduleuse. Avec comme conséquence, un, d'abord, déranger le marché local. Et déranger le marché local en créant une concurrence déloyale. Une concurrence qui ne permet pas à l'industrie locale de pouvoir, n'est-ce pas, faire face aux prix qui sont proposés par ces importateurs qui font entrer de marchandises de manière frauduleuse. Et donc, c'était un moment, le moment opportun, qu'il fallait prendre cette mesure-là afin de protéger, premièrement, l'industrie locale, et puis, deuxièmement, afin de protéger aussi l'emploi. Parce que vous vous souviendrez, en ce qui concerne la bière, j'en parle directement, Vous vous souviendrez que au Congo central, particulièrement à Boma, il y avait une usine de fabrication de boissons alcooliques et gazeuses. Mais cette usine a été fermée à cause de la mauvaise concurrence ou de la concurrence de l'OEA. De produits qui viennent de pays étrangers,
notamment de loufou,
et évidemment des loufou, qui viennent et qui se vendent au prix qui dérange le marché. C'est-à-dire, nos producteurs locaux, ils les font en tenant compte de tous les paramètres, notamment en payant l'impôt à l'État. Mais par contre, ceux qui entrent avec des marchandises de manière frauduleuse, ne payant pas l'impôt, ne payant pas les taxes, ils sont à même de pouvoir vendre à des prix très faible.
Mais professeur, quel est le degré d'efficacité de telles mesures du moment où l'on connaît la porosité de nos frontières et également le fait que l'économie congolaise est une économie extravertie?
Évidemment, d'abord, tout commence par le contrôle. Et les services, tous les services qui sont aux frontières sont instruits à pouvoir mettre en pratique ces mesures-là. Et au niveau du ministère, Nous avons le contrôle parce que nous avons au niveau du ministère, à l'administration, nous avons toute une inspection à l'administration qui passe aussi au contrôle. Donc, l'OCC, la DGDA, la migration, la police et tous les services qui sont aux frontières sont instruits à pouvoir exécuter ces mesures-là.
Mais on sait qu'il y a même des mesures qui avaient été prises par le président de la République et par plusieurs autres autorités, qu'on réduise par exemple le nombre des services aux frontières, mais qui n'ont jamais été appliquées. C'est cette mesure qui le sera.
Oui, mais ça le sera parce que, et là ce qui est avantageux, parce que la population elle-même, elle est impliquée. Prenez le cas de produits de la bière par exemple. Vous pensez que la population de Boma, elle est contente lorsque elle voit la braliment qui produisait sur place ne peut pas produire et que l'emploi disparaît de manière visible par tout le monde? Cette population ne peut pas accepter ça et donc la population elle-même est impliquée, la population elle-même donne les informations et d'ailleurs je vous dis, nombre d'informations que nous avons eues, ce sont des informations récoltées de la part de la population. Et donc, avec l'appui de la population, et là nous appelons encore la population, d'appuyer davantage cette mesure parce que c'est une mesure qui la protège, elle. Non seulement en termes d'emploi, mais également en termes de consommation, parce que vous avez énuméré beaucoup de produits qui sont interdits à l'entrée, parce que ces produits impropres à la consommation détruisent la santé de la population. Et donc, nous appelons aussi la population à s'y impliquer. Vous savez, partout au monde, une mesure, si elle ne reçoit pas le quitus de la population, cette mesure-là n'avance pas. Mais si la population s'y implique, sachant que c'est pour son intérêt, je crois que cette mesure pourra avancer. Et le cas échéant, cette mesure, nous voyons déjà des effets. Parce que il n'y a pas longtemps, le ministre angolais nous a appelés pour nous dire, écoutez, vous bloquez notre boisson, vous ne voulez pas que notre boisson entre, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on parle un peu? C'est-à-dire déjà que les choses passent.
Alors, il y a Bivens Tambwe, temple de Kongolo, qui dit « La décision du ministre est louable par le fait qu'elle vient encourager les industries locales d'une part, mais d'autre part, cette décision viole la théorie du libéralisme économique instaurée depuis le 19e siècle qui prône le libre-échange des biens et services entre les différents pays. Je me demande aussi pourquoi, les produits fabriqués par nos industries locales auront la qualité requise dès lors qu'il n'y aura pas la concurrence loyale avec ceux de l'étranger, professeur.
Merci. Je remercie mon ami pour... Je n'ai pas retenu le nom.
Bivens Tambwe.
Oui, la théorie libérale des échanges internationaux, elle est aujourd'hui soutenue par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Et à l'OMC, il y a des principes, notamment le principe d'antidumping. Ça voudrait dire quoi? On ne peut pas accepter qu'un commerçant ou un importateur puisse venir vendre une marchandise chez nous à un prix très bas pour pouvoir casser les prix locaux, n'est-ce pas, et détruire l'industrie locale.
Mais l'Organisation mondiale du commerce aussi est contre le protectionnisme.
Non, je vais vous dire, il y a des normes sur le plan des échanges, surtout au niveau des frontières. Vous savez que au niveau des frontières, par exemple, il y a des accords qui sont signés entre le pays et que ces accords fixent la liste de biens qui doit passer par les frontières.
Merci, professeur. Oui. Je reviens à vous tout à l'heure. Jérôme Sekana, vous êtes journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Comment vous avez accueilli ces mesures?
Merci beaucoup. Vous savez, c'est une bonne chose si nous voulons créer de l'emploi dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons, parce que nous avons des jeunes, nous déversons sur le marché de l'emploi beaucoup de jeunes, mais qui sont au chômage. Je pense que même le taux de chômage est au-delà des 90% dans notre pays, ce qui est extrêmement grave. Mais j'ai comme l'impression que la décision du ministre, au-delà de chercher à créer suffisamment de l'emploi dans notre pays, ne pourra pas peut-être donner les résultats escomptés à long terme. Je m'explique. Parce que nous ne produisons pas en quantité industrielle suffisante, c'est que c'est dont nous avons besoin. Tous ces produits, excepté peut-être les produits qu'on peut appeler ici les boissons gazeuses et la bière, parce qu'on en a des industries qui produisent en quantité, mais des barres de fer, le ciment gris. Quand vous regardez de très près, nous venons d'acquérir quelques usines dans le Congo central, ce qui est une bonne chose, mais les besoins que nous avons sur l'ensemble du territoire national, et j'ai cru comprendre que cette mesure ne concerne que la partie ouest et que la partie est peut encore continuer à s'approvisionner, on constate que le ciment que nous produisons localement dans la province du Congo central est de très bonne qualité, surtout avec des équipements que nous venons d'acquérir. Mais ça coûte extrêmement cher par rapport au pouvoir d'achat de la population. Donc, vous avez par exemple le ciment produit au Maroc, rendu Matadi, c'est à plus ou moins $5.
Voire en Turquie.
Voire en Turquie, $5. Ce qui fait que quand ça vient, en tout cas, c'est vendu sur le marché à très moins cher. Et je ne dis pas que les industries qui produisent les ciments chez nous ne peuvent pas le faire, mais il y a la parafiscalité qui essaie un peu de gonfler la facture, le prix des ventes, ce qui fait que ça c'est au-delà de la portée du pouvoir d'achat de la population. Voilà pourquoi j'ai dit, nous risquons, en cherchant bien sûr à créer quelques milliers d'emplois, bien sûr il faut protéger l'industrie, et essayer d'aggraver la situation, parce que, regardons dans l'histoire, lorsque nos sociétés, nos industries de cimenterie étaient incapables de produire la quantité dont nous avons besoin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des dignitaires, ce sont des gradés de l'armée et de la police qui prenaient des véhicules entiers, et le peuple ne pouvait pas accéder. Pour commander un véhicule de ciment, il fallait avoir des relations. Donc nous osons croire que, au nom du devoir de la redevabilité, le gouvernement devrait nécessairement tenir compte, surtout dans cette période où la situation socio-politico-économique n'est pas du tout bonne. Si le ministre a essayé de regarder le problème dans toutes ses facettes, alors là, je peux applaudir de demain, parce qu'il ne faudra pas que, un mois après, 5 mois après, que le sac du ciment que nous achetons ici à $10, qu'on commence à nous le vendre à plus ou moins 15, en ce moment-là, ça risque de provoquer des tensions sociales. Et je voudrais ajouter à Alain Hirung, le fait que j'ai suivi, pas plus tard qu'hier, qu'il y a déjà de certains compatriotes qui œuvrent dans les secteurs de la cimenterie, qui œuvrent dans les secteurs, bien sûr, des barres de fer, qui se plaignent du fait que le ministre ne les a pas consultés. Bien sûr que le ministre a l'autorité de prendre des mesures conformément à la loi et à l'obligation de protéger de l'emploi. Mais il a des partenaires qu'il faut consulter coûte que coûte avant de prendre des mesures comme celle-ci.
Voilà, le professeur nous donnera plus de précisions tout à l'heure, mais Jérôme Sekana, entre les deux propositions que voici, la première, interdire l'importation de certains produits ou suspendre, et la deuxième qui serait, par exemple, augmenter le prix de la douane pour ces produits importés de l'étranger, pour que le budget de l'État puisse encaisser quelques recettes, quelle est la meilleure formule?
Donc, ça ne sert à rien d'augmenter. Vous savez, même tout le bruit qu'on entend au poste frontalier, la douane, les droits des douanes ne représentent que plus ou moins 20% de la valeur marchande, plus ou moins 20% de tout ce qu'on paye au cordon douanier. Donc c'est la parafiscalité, ce sont des services clandestins qui opèrent et qui font que notre douane est considérée comme la douane la plus chère. Moi, la solution la meilleure en République démocratique du Congo serait que nous puissions produire nous-mêmes ce que nous consommons. Si nous pouvons construire des industries, des cimenteries ici et là à travers la République, j'ai quelques chiffres, je ne sais pas moi si ces chiffres tiennent encore la route, nous consommons en moyenne 10 millions de tonnes de ciment par an en République démocratique du Congo. Donc seulement la production locale avec nos usines, nous arrivons difficilement à 4 millions. Alors, s'il y a un gap de 6 millions de tonnes, ce gap est complété par ce que nous importons. Moi, je pense que nous devons être prudents, parce que nous sommes dans une phase de reconstruction. Nous avons besoin, bien sûr, de ces ciments-là pour nous reconstruire, et pour reconstruire plutôt notre pays. Donc, il est important qu'avant de prendre une telle mesure, que nous puissions examiner tous les contours, voir si, merci, en prenant cette mesure-là, nous ne risquons pas de
créer des effets contraires,
de ralentir même la reconstruction, merci, et surtout d'obtenir des effets contraires.
Merci. Papi Maotela, bonsoir, vous êtes en ligne?
Ah, bonsoir Alain, comment vous allez?
Ça va bien, merci. Vous êtes analyste économique, comment vous avez accueilli ces mesures du ministre du Commerce extérieur?
Je n'ai pas un tableau de bord devant moi, je n'ai pas des éléments d'analyse. Je vais essayer d'être extrêmement prudent, mais normalement, je pense que le problème est très mal posé. La première question que le ministre devait se poser, pourquoi le sac de ciment produit localement coûte plus cher que les sacs qui est importé de la Chine, de l'Égypte ou de l'Angola? Ça, c'est la première question qu'il devait se poser. La deuxième question que le ministre devait se poser, c'est de dire, OK, actuellement, quelle est la quantité demandée de ciment gris au Congo? Je donne un exemple, la quantité demandée, il est de 10 millions. Actuellement, quelle est l'offre? Comment les entreprises locales peuvent produire? Aujourd'hui, à partir des chiffres, je crois qu'ils peuvent produire 2 500 tonnes par année. Donc, si vous regardez, il y a un gap d'au moins 7 500 000. Ça veut dire, est-ce que nous devons recourir à l'importation? Ça, je ne sais pas. La première question que le ministre devait se poser, c'est de dire, OK, quelle est la capacité installée des entreprises locales? Admettons que cette capacité installée est de 12 millions. Alors, pourquoi ils arrivent qu'à produire 2 millions? Alors, le ministre, avec ses partenaires qui sont dans ces secteurs, ils se mettent autour d'une table et ils essaient de regarder les structures de coûts de ces entreprises pour permettre à ces entreprises d'être plus compétitives. Aujourd'hui, si vous regardez dans les secteurs de ciment, 60% de charges ou de coûts proviennent de l'énergie, l'eau, l'électricité et les fuels. Or, le carburant, nous ne le produisons pas localement, il les importe. Avec l'instabilité de la monnaie nationale, avec la dépréciation de notre monnaie locale, dont le bien importé vont augmenter. Comme le bien importé vont augmenter, ils vont avoir un impact sur le facteur de production parce que la plupart des matières premières sont achetées à l'étranger. Lorsque nos matières de production vont coûter cher, la structure de coût va être améliorée, ça veut dire que le coût va augmenter et va avoir une incidence sur le prix localement. C'est des bonnes questions qu'on devait se poser. On ne va pas résoudre un problème structurel par une décision politique. Alors, le ministre n'a pas posé de très très bonnes questions. Aujourd'hui, pourquoi les ciments de l'Angola coûtent moins cher? Et je pense que Jérôme Foucault l'a dit, c'est la parafiscalité. Aujourd'hui, l'État, il accuse les exportateurs et les importateurs de ses faiblesses. Nous avons un système qui est un système qu'on a hérité de colons. 57 ans plus tard, on n'a pas amélioré nos systèmes. Nous avons un système fiscal qui est obsolète. Quand ils disent aujourd'hui, quand un ministre, il se permet de dire qu'il y a des citoyens, des Congolais, qui arrivent à faciliter des étrangers comme des locaux de pouvoir importer frauduleusement. Moi, si j'étais le ministre, je démissionnerais. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité. Il ne s'alarme pas. Il a l'autorité. Il devait arrêter tous les citoyens ou ses importateurs qui auraient violé la loi, les mettre devant la justice.
Papi Maotela.
Prendre la
Papi Maotela.
Papi Maotela, il y a par exemple Luc Malembe de Bounia en Ituri qui lui pense que c'est plutôt une question de patriotisme. Il dit un Angolais, un Brazzavillois n'achèterait jamais un produit étranger alors qu'il y a une usine locale qui en fabrique. Pourquoi le Congolais lui aime toujours ce qui vient d'ailleurs, négligeant ce qui est produit localement? Le ministre et son gouvernement devraient faire en sorte que ces usines s'installent également dans la partie est du pays et mettent fin à cette domination économique des pays voisins dont nous sommes victimes.
Non, nous allons pas en économie, hein, le patriotisme ne répond pas à toutes les questions. Je donne un exemple. Aujourd'hui, après l'indépendance, ça fait 5 ans, 7 ans, nous sommes incapables aujourd'hui de pouvoir attirer 2 investisseurs dans le secteur de ciment pour pouvoir produire à l'est du pays. Ça, c'est la tâche du gouvernement. Parce que nous réfléchissons à court terme. Malheureusement, dans ce pays, on réfléchit à court terme. Je donne un exemple. Dangote, il y a 2 ans, il a mis 4 milliards de dollars. Et dans ces 4 milliards de dollars, il a signé un contrat avec Sinamori National, c'est une entreprise chinoise, pour construire 11 entreprises. 10 en Afrique, une au Népal. Sur les 10 pays africains, il n'y a pas la RDC. Alors moi, si j'étais le ministre de commerce extérieur, je ne dormirais pas. Je pourrais me poser la question. Je dis, bon, pourquoi cet Africain qui a beaucoup d'argent va investir en Zambie, en Tanzanie, en Éthiopie, il ne va pas investir chez moi? Alors il y a un problème chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui ne sont pas stables. Un investisseur ne viendra dans notre pays mettre son argent si c'est stable. Donc comme le pays n'est pas stable, les gens ne viendront pas. Donc il ne faut pas que les ministres acquisent les importateurs et les exportateurs. Le problème, c'est le problème du gouvernement. Nous avons des systèmes économiques qui sont exsangués, qui sont obsolètes, qui ne répondent pas aux besoins locaux. Alors, il ne faut pas qu'on commence à créer patriotisme. Nous devons réfléchir. On est faible aujourd'hui, alors on les chante dans notre hymne national. Nous allons construire ce pays plus beau qu'avant par les labeurs et dans la paix. C'est par le travail qu'on va construire la RDC. C'est pas avec une décision, on écrit avec un bout de papier, on signe, que les choses vont marcher.
Papi Maotela.
Le ministre, je vais terminer par ici, le ministre de commerce, l'année passée, au mois de novembre 2016, lorsqu'il présente le projet de son parti politique, il dit un peuple grand pour une grande nation. Il dit il faut que les autorités politiques, comme décidaires, doivent arriver à proposer des mesures qui soient cohérentes et rationnelles. Mais lorsque j'ai lu l'arrêté, il n'y a aucun chiffre. Aujourd'hui, il faut que le ministre arrive à dire ok, voilà la décision que j'ai prise, mais malheureusement, cette décision est temporaire.
Merci.
Voilà la décision que j'ai prise, ça va créer autant d'emplois. Voilà, l'État va gagner autant de revenus. Il n'y a aucun chiffre. Alors, j'aimerais savoir dans 6 mois comment nous allons arriver à restructurer nos administrations avec cette mesure temporaire.
Merci. Merci, Papi Maotela. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Emmanuel Mukundi, nous allons d'abord prendre cette réflexion qui nous vient de Bukavu pour vous et vous allez réagir aux autres aspects.
Merci. Robert Mahomet de Bukavu, au Sud-Kivu. La RDC n'ayant pas la capacité de produire les ciments gris, les barres de fer, etc., pour satisfaire la consommation locale, ces mesures du ministre du Commerce extérieur ne valent pas la peine d'être prises. Bien au contraire, elles vont créer la rareté de ces produits et ipso facto favoriser leur fraude, leur spéculation et la hausse de leurs prix. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas, ou du moins ne veut-il pas matérialiser sa décision sur la lutte contre le coulage des recettes dans les régies financières pour avoir les moyens sur de sa politique budgétaire?
Professeur.
Merci beaucoup pour notre ami qui est intervenu à Bukavu. Je vais ramasser les interventions à, je crois, 2 ou 3 niveaux. Premièrement, d'abord, c'est recadrage. Recadrage, c'est que pour notre ami de Bukavu, il doit être calme parce que les mesures concernent la partie ouest de la République démocratique du Congo. Ça ne concerne pas la partie est. Et donc, même notre ami Papi qui est intervenu, donc, il doit trouver déjà la réponse. Si on a appliqué pour l'Ouest, pour ne pas appliquer pour l'Est, ça voudrait dire que ça a été étudié au préalable. Donc, si Papi demande que dans l'arrêté, qu'on mette les chiffres, non, mais on ne peut pas mettre les chiffres dans l'arrêté. L'arrêté vient sanctionner les réflexions qui ont été faites dans le soubassement. Et l'arrêté sanctionne c'est ce qui a été pris. Donc,
alors, professeur, si par exemple vous dites que ça a été étudié en amont, est-ce que ici et maintenant vous êtes par exemple capable de nous dire la RDC perd autant d'argent dans les 6 mois avec cette mesure, on aura gagné autant? par exemple.
Non, mais écoutez, il faut aller très rapidement. Je voulais préciser, lorsque on dit le ministre, on s'acharne contre les importateurs. Non, on s'acharne contre ceux qui sont dans la contrebande. Il y a une différence, notre pays, nous devons le savoir. Il y a une différence entre ceux qui sont dans le légal et ceux qui sont dans l'illégal. On s'acharne ceux qui sont dans la contrebande et ceux qui sont dans la fraude. Et malheureusement, c'est ceux qui sont dans la fraude et dans la contrebande, ceux qui sont dans l'informel, qui perturbent le fonctionnement du marché de manière normale. C'est à ceux-là qu'on a eu à prendre cette mesure. Et cette mesure, je voulais le dire, cette mesure est salvatrice pour nos entreprises. Notre frère Jérôme a dit, est-ce que cela a été concerté avec
les partenaires?
Bien sûr, nous ne sommes pas. Le ministre lui-même, c'est un économiste monétariste, et donc il a les notions de l'économie libérale. Et donc, nous ne sommes pas à l'époque de l'économie des fouets, où un ministre doit se mettre dans son fauteuil, il le réfléchit avec son petit cabinet et il prend des mesures. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'économie de partenariat public-privé. Et donc, lorsque le ministre prend la mesure, avant même de la prendre, c'est une concertation avec le secteur concerné. Il n'y a pas tous les secteurs qui ont été touchés, mais il y a des secteurs précis. Et pour ces secteurs-là, il y a eu concertation, il y a eu analyse, il y a eu étude. Ça, c'est sur le plan des secteurs. Et sur le plan d'espace, il y a aussi analyse, ce n'est pas tous les secteurs, tout l'espace ou toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui est concerné, c'est plutôt la partie ouest. Pourquoi la partie ouest? Parce que vous savez que nous avons les anciennes entreprises qui produisent, qui renaissent, qui produisent et qui offrent au marché, et nous avons des nouveaux investissements qui permettent aussi de répondre à la problématique de l'offre et de la demande.
Mais Jérôme et Papy ont posé une question essentielle. Pourquoi le ciment produit localement coûte plus cher que celui qui est importé? Il y a un problème de parafiscalité. Est-ce que le ministre, en prenant ces mesures, ne met pas la charrue devant le bœuf?
Effectivement, Jérôme a posé une question de la trilogie économique. Il y a les problèmes de la quantité, il y a les problèmes de la qualité, il y a les problèmes de prix. Je commence par le problème de prix. On ne peut pas se voiler la face. Regardez les panneaux, les pancartes qui sont mis partout ailleurs. Ici à Kinshasa, comme partout à l'ouest, vous remarquerez que le prix des ciments importés, comme le prix des ciments fabriqués localement, c'est presque la même chose. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous vérifiez au jour d'aujourd'hui, les prix des produits, les ciments importés et des ciments produits localement, c'est presque le même, ou c'est le même, je voulais dire, c'est le même. Pourquoi c'est le même? Parce que ceux qui faisaient entrer les ciments de manière frauduleuse, ils n'avaient pas à payer les coûts, notamment le taxe, et par conséquent, ils pouvaient fixer les prix de n'importe quelle manière. Mais ceux qui importaient, là je peux même défendre ceux qui importaient de manière régulière, de manière formelle, ceux-là même étaient aussi touchés. Voilà la raison pour laquelle cette mesure est venue, en ce qui concerne les prix, résoudre le problème de prix. Regardez sur le marché, vous allez voir, les prix ont baissé. Aujourd'hui, nous avons le prix des ciments, c'est autour de 8,5, 9, alors que avant, il y a 3, 4, 5 mois, c'était à 12, 13. Ça, c'est le problème de prix. Si vous permettez que je...
Très rapidement, professeur, oui. Terminez votre propos.
En ce qui concerne les quantités, cela a été étudié. Nous avons donné 6 mois aux producteurs locaux en leur disant, vous avez crié, vous avez décrié et vous avez demandé. Ok, d'accord. Nous vous accordons de nous présenter votre planning de production. Et cela a été étudié au fin de répondre à la demande locale. Merci. Donc cela a été fait de manière étudiée.
Merci. Jérôme Sekanaya, pour vous, cette réaction qui nous vient de la province du Haut-Ouélé.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Ouélé. Une décision qui n'est pas la première, mais d'une solution toujours éphémère, à mon avis. Je crois qu'il faille, primo, éviter de surtaxer les industries locales pour réduire ainsi le prix de leurs produits. Secundo, rendre compétitifs nos produits par l'amélioration des qualités et quantités. Tertio, améliorer le climat politique d'affaires pour attirer beaucoup d'investisseurs capables de couvrir les besoins avec des produits locaux.
Voilà, Jérôme, il a presque repris ce que vous aviez dit.
Oui,
déjà dit.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous savez, il faut nécessairement qu'au niveau du gouvernement, qu'on prenne des mesures qui vont durer dans le temps. parce que nous étions habitués effectivement à avoir des mesures éphémères dont les résultats du jour au lendemain, un mois après, on avait le prix qui reprenait de l'ascenseur. En ce qui concerne par exemple la compétitivité, nous pouvons dire que le gouvernement a fourni quand même des gros efforts. Les industries qui sont installées dans la partie ouest, ce sont des industries de haute facture, donc des industries modernes avec des équipements qu'il faut. Mais la grande problématique ici, est-ce que la production va absorber, va couvrir les besoins? C'est ça le nœud du problème. Si le gouvernement a projeté des analyses, donc le ministre du Commerce devrait d'abord donner un point de presse et communiquer les résultats de ces études-là pour dire que bon voilà, nous perdons autant, comme vous disiez, et puis nous allons devoir arrêter l'importation, et voilà ce que le pays va engranger comme bénéfice en termes de création d'emplois, combien d'emplois qui seront créés, et en ce moment-là, on serait tous d'accord. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de ce qui se passe dans l'industrie notamment de la cimenterie, où si vous n'avez pas des galons, si vous n'êtes pas connu, vous n'accédez pas au ciment. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, le ministre du Commerce peut nous garantir que ça n'arrivera plus avec cette quantité? Nous savons très bien que le gouvernement a accordé des facilités à toutes ces industries qui sont implantées dans la partie ouest. Et le gouvernement devrait y aller mollo-mollo. Ce n'est pas parce qu'elles veulent bien sûr entrer dans les frais d'investissement, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut tenir compte également de la situation socio-économique et du pouvoir d'achat de la population. Si le prix peut rester en deçà de 10 dollars le sac pendant les 6 mois, nous allons applaudir de demain. Et si nous ne pouvons pas apprendre qu'il y a des chantiers qui sont aux arrêts, et qui sont en arrêt plutôt, tout simplement parce qu'on n'a pas eu du ciment. En ce moment-là, nous allons applaudir. Mais il ne faudra pas, et le gouvernement n'a pas le pouvoir d'arrêter la contrebande. La contrebande s'est fait au vu au-dessus de tout le monde, et parfois, les contrebandiers sont escortés par nos policiers, par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez tout à l'heure parlé du décret du chef de l'État limitant les nombres de services à 4, mais on a toujours crié qu'on doit appliquer, on n'a jamais appliqué ça. Donc, moi, je pense que notre compatriote a parfaitement raison. Nous regardons tous du côté du gouvernement. Si le gouvernement peut nous garantir que les mesures qui sont prises vont donner les résultats escomptés et qu'il y aura création d'emplois, qu'il y aura, on ne manquera pas du ciment. Prenons les cas pour terminer de barre de fer. Nous avons, vous savez, on avait investi dans un éléphant blanc, la sidérurgie de Maluku. On n'a pas, vous savez que nous avons dans la province orientale, il appelle de la province orientale?
Oui.
Je dois lui dire que nous avons 20 milliards de tonnes de fer dans la province, dans l'ex-province orientale là-bas. Et nous avons un grand projet qui peut permettre à ce pays de se développer. C'est-à-dire, il faut évacuer ça par exemple, le banana. Et l'État et la République démocratique du Congo cherchent des partenaires pour exploiter ça. Et vous savez que si on pouvait installer, ne serait-ce que cette usine de Maluku, la chirurgie au niveau de Kisangani, on allait faciliter la tâche, la matière première serait à la portée. Et on n'a pas beaucoup de... L'État a installé une usine ici, une usine qui produit des barres de fer, mais la production est insuffisante par rapport aux besoins.
Alors, nous avons... Jérôme Sekana, trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer à encourager l'industrie locale en rabattant ces taxes?
Mais la règle est simple. Nous devons soutenir l'industrie locale. Personne ne peut être contre ça. On doit soutenir l'industrie locale. Mais soutenir l'industrie locale, d'accord. Mais est-ce que cette industrie locale est capable de couvrir les besoins qui s'expriment au pays? J'ai dit non. Je vous ai donné quelques chiffres. Sur 10 millions de tonnes dont la République a besoin en une année, merci, nous n'arrivons même pas à produire 4 millions. Et les 6 millions de tonnes proviendront d'où?
Merci. Papi Maotela, il y a pour vous cette réflexion qui vient de la province de la Tchopo.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis le territoire d'Opala, dans la province de la Tchopo. N'est-ce pas une décision déjà prise par le ministre du gouvernement précédent qui semble distraire, car ça n'a rien produit dans un pays où l'ex-pays qui devrait encourager ces industries locales, ne joue pas son rôle suite à la politisation et au détournement des fonds alloués chaque année dans cette institution de l'État. Maintenant, qu'est-ce que le ministre de l'Industrie fera que ses prédécesseurs n'ont pas fait pour que ses rêves deviennent la réalité dans un pays où ses exportateurs sont en majorité des politiciens ou soit elles coopèrent avec les politiciens du pouvoir en place?
Papi Maotela.
Merci Pépé, c'est une très bonne réflexion. Avant de répondre à Pépé, je veux revenir sur le propos de Durkheim Kabini. Je n'ai pas demandé à ce que des chiffres soient publicisés dans l'arrêté. Et par contre, un expert, vous êtes économiste, vous devez savoir, vous partez sur des sous-bassements qui sont à la fois scientifiques et théoriques. Je vous donne des chiffres, je ne sais pas si vous n'en avez pas. Donc, même j'ai remarqué que vous êtes incapable de me donner des chiffres ce soir. Sur un tonne de ciment gris produit en Chine, le coût en termes de fuel représente 6 dollars. Un tonne pour le fuel, le coût de fuel au Nigeria, c'est 5 fois plus, ça fait 30 dollars. Lorsque tu essaies de comparer, parce qu'en Afrique, il y a 41 pays qui produisent le ciment. Le seul pays qui ne produit pas le ciment qui est frontalier à la RDC, c'est le Sud-Soudan. Lorsque tu essaies de faire une étude, ramasser des coûts de production unitaire d'un sac de ciment comparé au pays limitrophe et à la RDC, vous allez remarquer que le coût de production est extrêmement faible par rapport à la RDC. Alors, ça c'est le premier point. C'est par là qu'il faut faire. Vous devez savoir que la RDC, c'est un marché pour nous. Nous avons 9 pays limitrophes. La RDC, c'est 2 345 000 km², 80 millions de population. Donc, c'est toujours un marché pour nos amis à limitrophes. Alors, nous devons être intelligents. Je l'ai dit bien au départ. Toutes les mesures qui vont être prises par les gouvernements ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui est obsolète. Si on ne change pas les systèmes, ça ne va pas marcher. La RDC, c'est une belle voiture, une Ferrari, avec un bon habitat, mais le moteur est complètement foutu. Et nous, on pense que si on change le conducteur, ou bien on change de pneu, que ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut changer d'abord le système. Quel est le système fiscal actuel? Je suis d'accord qu'on doit aider les entreprises locales. Mais ce n'est pas en limitant les importations qu'on va les aider. On va encore créer des crises. La meilleure façon, c'est de s'asseoir avec ces gens, aller à la Fédération des entreprises congolaises. Il y a des experts dans ce secteur. Posez-les la question. Quel est votre problème? Le problème, c'est le coût de production. Les coûts de production sont plus élevés. Alors, le matière première qui rentre dans la procédure, dans le processus de fabrication de ciment, sont achetés à l'extérieur. Vous devez savoir que le processus de production de ciment est extrêmement complexe. Il passe par 3 étapes. Et comme je l'ai dit, les charges d'exploitation sont extrêmement importantes parce que le coût en termes d'énergie, eau, électricité et fuel représente 60%. Or, nous savons très bien que le courant de la semelle est instable. Donc, ces investisseurs sont obligés de pouvoir investir dans d'autres énergies pour essayer de pallier à l'instabilité du courant. Parce que lorsqu'il y a instabilité du courant, parce que les différentes phases de la production de ciment, si le courant est instable, ils vont perdre la production.
Papi Maotela.
Tu essaies de regarder. Oui.
Oui, le professeur Emmanuel Mukundi a tout à l'heure dit que le ministre, le gouvernement a donné 6 mois aux producteurs, aux industries locales pour démontrer de quoi elles sont capables. Visiblement, je vous sens dubitatif.
Non, je suis dubitatif. C'est simple. Le gouvernement, j'ai toujours dit dans ces pays, nous avons une culture de responsabilité. Nous pensons que nous voulons expliquer nos bêtises par nos voisins. Mais nos voisins ne sont pas la cause de notre malheur. La cause de notre propre malheur, c'est le Congolais lui-même. Les gouvernements doivent se poser quelle est aussi ma responsabilité. L'économie, le professeur qui est là, il sait très bien que l'économie, ce n'est pas une science disparate, c'est un tout. Est-ce quel est le projet du gouvernement? Quelle est la RDC? Si je lui posais la question, quel est le projet de la RDC dans 50 ans, dans 100 ans, il sera incapable de me le donner. Alors, c'est sur base de ces projets que les investisseurs vont se dire « Ok, moi je vais me greffer au secteur A et B pour essayer de produire. » Je donne un exemple, l'Éthiopie. Les taux d'urbanisation étaient inférieurs à 20% il y a 5 ans. Alors, ils ont pris la décision, ils ont mis un projet, ils se disent « Ok, on va développer l'Éthiopie. » Aujourd'hui, l'Éthiopie qui était en arrière, si vous regardez les secteurs de ciment ont augmenté. Donc aujourd'hui, même l'Éthiopie arrive
à rivaliser avec le Ghana qui est un des consommateurs. Parce qu'il y a un gros consommateur du ciment.
Merci.
En Afrique. Donc, s'il n'y a pas de projet de gouvernement, alors ça ne va pas marcher. Il n'y a pas un système. Le moteur est complètement foutu.
Merci.
Il veut replacer de pneus. Ok, bonne chance. Vous voulez bloquer la mer avec vos bras. J'ai dit félicitations. Je vais attendre dans 6 mois et on va voir, on va analyser les résultats.
Merci. Professeur Mukundi, c'est pratiquement mission impossible pour Papi Maoté là parce que le système économique, il est obsolète.
Je vais réfléchir avec lui en partant du système. C'est vrai que pour résoudre un problème structurel, il faut voir le système. Mais cependant, le problème structurel, c'est une accumulation de problèmes conjoncturels. Il est une économie laissée. À partir du moment où vous remarquez un problème conjoncturel, selon Papi, vous devez dormir dans vos oreillers et puis vous commencez d'abord à chercher les questions structurelles. Je suis d'accord avec lui que notre système fiscal, c'est un système qui doit procéder par des réformes. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais cependant, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il veut d'une part qu'on améliore du côté de l'État les systèmes fiscaux et de l'autre part, il insurge le fait qu'on ait interdit l'importation frauduleuse. Ça, je me dis, il doit apaiser quand même quelque chose. Ici, le problème qu'il y a, c'est d'abord arrêter cette hémorragie de la fraude. Ça, c'est la première des choses. Arrêter cette hémorragie de faire consommer aux Congolais le produit de mauvaise qualité. Parce que quand je parlais avec mon frère Jérôme à mes côtés, je disais qu'il a soulevé un problème économique valable, dont j'ai parlé ici de la trilogie. Il faut pas voir seulement la qualité, il faut pas voir seulement le prix, il faut voir aussi la quantité. Si notre ami Papi s'arrête à l'analyse du coût, je suis d'accord avec lui, mais ce sont les mêmes industriels qui ont demandé au gouvernement congolais de pouvoir le protéger. Et dans tout le pays du monde, lorsque l'industrie locale est en difficulté, le gouvernement a l'obligation de protéger. Et surtout qu'on l'a fait.
Et dans l'espace et dans professeur.
En conclusion, le ministre a eu à prendre des mesures pour sauver notre industrie. C'est parce que on a focalisé tout notre débat, et non pas sur l'arrêté ou sur les arrêtés, mais sur le ciment. Lorsque vous regardez, le ministre interdit par exemple l'exportation des quinquennats. Vous savez que les quinquennats, nous sommes le seul produit qui les produit au monde à 80%. Et donc,
merci.
Malheureusement, on n'a pas le temps.
Voilà, souffrez que je vous arrête par là. Jérôme Sekana, il faut réformer, revoir le système.
Oui, nous allons y travailler parce que nous sommes déjà en train de réfléchir sur le climat des affaires. Et du 11 au 14, nous allons essayer de revisiter le système fiscal congolais. Le gouvernement.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois.
J'ai toujours été optimiste. Parce que nous sommes Congolais, nous devons réfléchir pour reconstruire ce pays à partir de notre intelligence. Je suis tout à fait d'accord quand le directeur des cabinets dit qu'il faut arrêter l'hémorragie et surtout la contrebande. La contrebande, pour moi, c'est du terrorisme. Mais je voudrais que le gouvernement se donne le moyen de le faire parce que nos frontières sont poreuses. Parce qu'il y a vos collègues des BBC qui m'ont approché pour dire est-ce que cette mesure n'est pas prise seulement pour essayer de donner des fils à retordre à l'Angola. Bien, l'Angola, bien sûr, avec l'ouf, tout ce que nous avons connu, nous devons apprendre à produire. Nous sommes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas que nous puissions être le déversoir de produits des autres, même de produits qui viennent d'ailleurs et qui coûtent moins cher par rapport à ce que nous produisons. Nous devons consommer, produire et manger, surtout congolais. Nous devons Merci. Être des véritables patriotes et un vrai patriote, il mange ce qu'il produit.
Merci.
Consomme ce qu'il produit.
Merci. Papi Maoté, là, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de cette mesure?
Je pense que le directeur du cabinet ne m'a pas compris. Je suis par contre l'interdiction. J'ai dit qu'il faut analyser. Il doit savoir que les importations ne sont pas la cause. Les importations sont les faits. On nous importons lorsque le structure économique interne n'ont pas évolué par rapport à la demande intérieure. Ça, c'est la première question. Il est économiste. Il doit partir par là. C'est ça la base, l'analyse. Pourquoi nos produits ne sont pas compétitifs? C'est ça, il doit commencer par là. Il prend une décision politique, oui, mais une décision politique, il veut bloquer la mer avec ses bras. Je lui dis, félicitations, 6 mois après, je vais le voir. Je vais le voir les résultats escomptés de cette décision. Alors,
merci, Papi Mahotela. C'est par vous que nous terminons. Merci, professeur Emmanuel Mukundi. Merci, Jérôme Sekana. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci également à Guy Matt et Mimi Kindou, Berry Franklin Luchaka, qui ont travaillé sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. Présentation et coordination, Alain Rung Mouchinch. Au revoir.